Comme c'est quelque chose que je comprends très peu, j'avais écrit quelques questions qui vont peut-être aider pour danser, surtout dans le cadre de l'urbanisme transitoire. Je suis en train de réfléchir sur comment fait le parc et les autres projets transitoires peuvent aider avec surtout le timing des achats des terrains. Voilà, donc comment voilà, en fait surtout le timing et qu'est-ce qu'on
Alors,
fait entre-temps?
bon, globalement, le projet de l'île de Nantes, il est un peu en train de changer en ce moment-là, depuis quelques années, puisque, pour faire un peu rapide, depuis le début des années 2000, on a essentiellement travaillé sur du territoire qui était déjà constitué, ces quartiers-là, les quartiers à l'est, etc. Et qui du coup avait déjà une structure foncière, c'est-à-dire une multipropriété foncière. Et nous, enfin, le projet, il est intervenu, je dis un peu toujours, par dents creuses, alors qui pouvaient être des très petites dents, genre opération sur le Kier Wies de 1000 m², jusqu'à des dents plus grosses de 30, 40 000 m². Mais il n'y avait pas de notion de propriété foncière de l'aménageur ou de la collectivité sur des volumes très importants. Aujourd'hui, à date d'aujourd'hui, l'île de Nantes a dû produire à peu près 800 000 m² de bâtiments. Sur ces 800 000 m², il y en a à peine la moitié qui sont passés sur du foncier que la SAMOA ou la collectivité maîtrisait. Donc il y a plus de la moitié des opérations qui se sont développées sur le foncier privé. Ce qui fait qu'on a mis en place, on a dû mettre en place au début du projet, avec Alexandre Chimetov, Florent Thierry notamment, une méthode de suivi des opérations pour faire que les opérations soient suivies à peu près de la même manière, qu'on soit sur du foncier dont nous sommes propriétaires ou sur du foncier privé.
Quand c'est du foncier privé, du coup, c'est des investisseurs qui achètent.
Bah,
En fait,
grosso
ça
modo,
reste privé ou.
ça saute une case. C'est-à-dire, quand on est sur nos fonciers à nous, on lance des consultations de promoteurs pour choisir le promoteur, on retient le promoteur. Après, avec le groupe promoteur, on retient les architectes et la conception du projet se déroule et on suit la conception du projet. Quand c'est sur des terrains privés, bah, ça saute la case du choix de promoteur, puisque le promoteur se choisit lui-même, d'une certaine manière, en allant négocier son terrain avec un propriétaire. Donc du coup, là, c'est les mêmes promoteurs qui sont sur nos fonciers à nous et sur les fonciers privés. La seule différence, c'est quand on est sur nos fonciers à nous, on les a choisis, alors que quand c'est sur du foncier privé, ils sont choisis tout seuls, parce qu'à un moment donné, ils sont allés discuter l'acquisition d'un terrain avec un propriétaire. La deuxième différence, c'est que quand on vend le terrain, enfin, quand on est sur nos terrains, nécessairement, on leur vend. Et donc, dans les éléments, quand on leur vend, quand on leur signe l'acte de vente, on a plus de capacité de discussion, de négociation à intégrer un certain nombre de choses que quand on ne vend pas les terrains. Donc ça a été le modèle jusqu'à il y a quelques années. Le quartier Pré-Viaduc a été un premier, enfin a marqué un peu le point de basculement, puisque le quartier de la Pré-Viaduc, c'était la première fois où nous étions propriétaires d'un ensemble foncier important, qui du coup ne se limitait pas à une ou deux opérations, mais était vraiment à l'échelle d'un quartier. Puisque Pré-Viaduc, c'est donc une vingtaine d'hectares, c'est 150 000 m² pour une vingtaine d'opérations à peu près. Et donc là, dans un rôle d'aménageur plus classique, qui est le fait qu'on est propriétaire de l'intégralité d'un terrain, on fait tous les espaces publics, on découpe les lots et on vend chacun des lots dans une programmation qu'on établit nous, dans un rythme qu'on établit nous, en choisissant les promoteurs qui nous plaisent bien, etc., etc. Donc ça a été un peu le point de basculement, puisque c'est ce qui va se passer sur le sud-ouest sur les 20 prochaines années. C'est-à-dire que sur le sud-ouest, on se retrouve sur un site où la SAMOA et Nantes Métropole, ensemble, vont maîtriser l'intégralité des 80 hectares du foncier du quartier sud-ouest. Donc République dans une première phase et la partie plus à l'ouest dans une deuxième phase. Et là, du coup, on va être propriétaire de l'intégralité du foncier avec, je sais pas combien, peut-être 100 ou 150 opérations immobilières qu'on programme dans le temps, qu'on fait les unes après les autres. C'est nous, sur toutes ces opérations, qu'allons choisir les promoteurs, etc., etc. Et donc, quand on va vendre le terrain, on va être en situation de leur demander un certain nombre de choses. Donc ça, c'est le schéma un peu de comment plutôt le côté vente et développement des opérations derrière se passe. Après, mécaniquement, d'autant plus que c'est des grands fonciers, nos acquisitions foncières, elles ne vont pas être calées sur nos dates de revente derrière. C'est-à-dire qu'on est sur un projet qui s'étale sur 20 ans. Par exemple, quand on va acheter en 2022 le foncier ferroviaire, on achète 20 ou 25 hectares d'un seul coup. Donc évidemment, il ne va pas y avoir 20 ou 25 hectares d'opérations immobilières qui vont sortir d'un seul coup. Donc ça va s'étaler sur 10-15 ans. D'où la question de la gestion transitoire de cet espace. C'est-à-dire que le jour où... Alors, il y a une mine, mais c'est un peu différent, parce que le mine, pour le coup, il y a une opération essentiellement qui va la remplir de manière très importante, c'est le CHU. Donc, qui, elle toute seule, va remplir...
Bonne vacances. Si, tu pars la semaine prochaine, toi.
Ouais.
Ouais.
Et toi, tu pars maintenant, là.
Ouais.